Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pactem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, notre ami Pedro Fidalgo a quelques problèmes de santé et il n'est pas avec nous. Mais nous allons essayer quand même de faire notre émission, même s'il n'y aura pas d'intermèdes musicaux. Et nous sommes en présence aujourd'hui, alors je reprends mes papiers, je me mets derrière mon micro, de Bernard Ourcade. Alors Bernard Ourcade, vous le connaissez peut-être parce qu'il passe souvent dans des émissions de télévision, de radio, mais surtout, Bernard Ourcade est géographe et il est directeur de recherche émérite au CNRS. Et il est surtout, aujourd'hui ça nous intéresse beaucoup, spécialiste du monde iranien. Alors Bernard Ourcade, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc il faut quand même que je dise aussi que nous nous sommes rencontrés à la Bourse du Travail, à l'occasion d'une réunion organisée par les Amis du Monde Diplomatique et qui avait pour titre « Quelle issue pour le mouvement de contestation en Iran ?» Alors ça, c'est quand même très important parce qu'on est en plein dans l'actualité, là. On va bien sûr en reparler de tout ça, mais auparavant, Bernard Ourcade, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître un peu votre itinéraire, comment vous êtes retrouvé en Iran. Et la première information, alors vous allez me dire si c'est juste ou si c'est pas juste, que j'ai lu. Service national, professeur à l'Institut français de Téhéran. Alors, service national, pourquoi ?
Parce que, il n'y avait pas de service militaire à l'époque, le service était national. Et donc, il y avait les VSNA, comme on disait, les volontaires du service national actif. Donc, après les études, on partait en coopération pour travailler quand on a été prof plus ou moins dans un institut à l'étranger, dans des lycées français à l'étranger. Les ingénieurs partaient dans des entreprises ou des ONG, etc. Et pendant 2 ans, donc, au lieu d'être en caserne, nous étions donc à faire un service national dans des institutions à l'étranger. Et le hasard a fait que j'avais un programme pour aller au Canada, dans une université canadienne qui était en coopération avec la France, et donc c'était le pied à l'étrier pour une carrière universitaire. Et ça n'a pas marché du point de vue paparasserie, et on m'a dit au mois de juste avant de partir, écoute, il n'y a plus de place du tout, il y a si vous voulez à Téhéran, il y a un poste de prof de français, de civilisation française, l'Institut de Téhéran. J'ai dit oui, je prends, où c'est Téhéran, c'est par là-bas. Bon. Et je suis donc débarqué en mois de septembre 1970 en Iran, ayant terminé mes études de géographie, découvrant un pays dont je ne connaissais strictement rien. Mais ça a été une découverte extraordinaire. Et
La preuve, c'est que vous avez consacré ensuite presque toute votre carrière universitaire et au CNRS de chercheur à l'Iran.
Absolument. C'est une prison, une très belle prison, extraordinaire, puisque j'ai eu l'occasion d'y passer 2 ans là, de commencer ma thèse de doctorat. Et à l'époque, je travaillais surtout sur les questions de pastoralisme, développement rural dans les montagnes. Je suis pyrénéen, je suis palois. Et mes premières études ont été sur la vallée d'Ossau dans les Pyrénées. Et donc j'ai entrepris de faire un peu le même genre d'études sur l'Alborz central, les montagnes iraniennes, jusqu'à ce que la révolution iranienne me prenne. Et là, c'était une autre aventure.
Alors, ça m'intéressait, votre service national, parce que moi, j'étais au Niger, aussi dans la coopération. Donc il y a quelque chose peut-être qui nous rapproche. Voilà, donc en 1978, alors par contre, vous devenez directeur de l'Institut français de recherche en Iran. Alors, cet institut français, est-ce que c'est celui qui a été créé, d'après ce que je crois savoir, en 1947, c'est-à-dire tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça ?
Même beaucoup plus avant. Il y avait, disons, dès 1897, au 19e siècle, la France avait obtenu le monopole de la recherche archéologique en Iran. Et donc les Français avaient donc créé la délégation archéologique française en Iran et ont été les premiers à découvrir Suze, Toulang Tepe, les grands sites archéologiques iraniens ont été découverts et fouillés par des Français depuis la fin du 19e siècle. Et ensuite, à partir de 1947, la France a décidé de s'intéresser aussi aux contemporains et donc de créer un institut consacré à la langue, à la philosophie, à la littérature, à la pensée iranienne. Et c'est Henri Corbin, un philosophe, qui a créé en 47 cet institut. Et il faut voir qu'il y a eu la même chose faite à Damas, en Égypte, et dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. La France a ainsi soutenu la création d'un centre de recherche qui permettait aux étudiants français de faire leur doctorat, d'avoir une bourse de doctorat, si vous voulez, pour passer dans le pays 2, 3, 4, 5 ans, afin de connaître la langue, de connaître les gens, et de travailler sur la littérature, la philosophie ou l'histoire des pays concernés. Et en ce qui concerne l'Iran, donc, c'était Henri Corbin, un philosophe, qui a découvert et qui a mis à jour un grand nombre de traités philosophiques islamiques et soufis, et qui a été un des grands personnages des relations franco-iraniennes en matière de recherche. Et je ne suis arrivé que plus tard.
Alors justement, l'archéologie, moi j'avais connu Marie-Claude Defarge, qui était à l'époque du chat, elle faisait de l'archéologie là-bas, après elle a fait du cinéma, avec Troller, qui en Afrique surtout aussi, en Amérique latine, et même en Indonésie, mais elle était depuis longtemps archéologue justement en Iran. Oui. Alors à l'époque c'était peu courant de rencontrer des gens.
Disons, à l'époque, juste de 47, depuis un peu avant la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 60, l'archéologie était très princière, je dirais. C'était Roman Hirschman, qui était un prince, littéralement, de l'archéologie, un grand patron, un dictateur aussi, mais un dictateur génial, qui a lancé l'archéologie avec une petite équipe. Et c'est ensuite Jean Perrault, à partir de 1961-62, a développé l'archéologie de façon moderne, avec une grande équipe internationale, et il y avait jusqu'à une cinquantaine de chercheurs qui y travaillaient. Et donc, des années 1960 jusqu'à la Révolution islamique en 79, ça a été des dizaines, des centaines de jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés qui ont travaillé en Iran et qui ont été ainsi victimes du virus iranien, parce que lorsqu'on a travaillé en Iran, on ne peut plus s'en passer.
Alors Bernard Ourcade, effectivement, donc vous arrivez en 1978 comme directeur de l'Institut français de recherche en Iran et vous y restez 15 ans.
Pas exactement. Quand je suis arrivé, c'était pour créer la branche sciences sociales de l'Institut. Il y avait donc l'archéologie, il y avait ensuite la philosophie, l'histoire. Il y a eu ensuite, avec Charles-Henri de Fouchécourt, à partir de 1970, la littérature persane. Et de Fouchécourt était professeur de persan à la Sorbonne et à Langzhou. Et en 1977, ils ont décidé d'ouvrir, l'Iran est un pays moderne qui s'est développé, de créer un département de sciences sociales. Et donc j'étais le premier chercheur destiné à faire cela, à développer les sciences sociales, en géographie, en sciences politiques, en économie, etc. Et j'y suis resté pendant 5 ans. Donc j'ai vu la révolution iranienne, la chute du Shah, l'arrivée de Khomeini, la guerre Irak-Iran, la prise en otage des diplomates américains. Ce sont des événements qui étaient assez loin des villages que j'étudiais dans l'Albor central des nomades de montagne, mais c'était pour moi une révélation, une révolution, et effectivement des événements qui ont marqué. Et ce n'est qu'ensuite que, quand les instituts ont été fermés en 1983, la France étant co-belligérante contre l'Iran, nous vendions des armes.
On va en reparler.
Oui, à l'Iran. L'institut était fermé. Et donc, c'était un siècle de recherche archéologique et d'autres travaux qui ont été arrêtés. Mais fermé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait plus. Et donc, on a fusionné l'archéologie, la littérature, l'histoire, les sciences sociales pour faire un institut français de recherche global, qui était virtuel, puisqu'il était fermé. Mais il y avait ainsi quand même un budget, il y avait un bâtiment, des bibliothèques, des livres en publication. Et cela a continué tout en étant fermé. Donc, plus de chercheurs à l'Iran, mais des chercheurs qui étaient envoyés à Istanbul, en Asie centrale, en Inde, pour continuer à travailler sur l'Iran de l'extérieur. Et pendant ces années-là, j'ai continué à diriger l'Institut, donc, qui, en y allant 2-3 fois par an, payer le personnel, payer l'électricité, les charges sociales, les bouquins, mais sans activité, jusqu'à ce qu'en 90, les choses reprennent, et que malheureusement ensuite, en 2009, tout a été à nouveau arrêté.
Mais en 1978, vous habitiez à Téhéran.
Absolument, j'habitais à Téhéran, j'y suis resté de 78 jusqu'à 83. J'ai donc 4 ans et demi sur place, pendant toute la période révolutionnaire et l'arrivée du nouveau système en place. Mais surtout, qui était important...
Donc cette révolution, il faut peut-être qu'on rappelle quand même la date, 1979, Bernard Ourcade, c'est bien ça.
Oui.
Et alors là, ça vous a bousculé. Un an après votre arrivée, cette révolution... C'est impressionnant.
Même pire. Je suis arrivé en septembre 78, donc, à Téhéran, et je dormais dans les bâtiments de l'Institut d'archéologie, à l'époque, des séparés, et le matin à 5 heures, j'étais réveillé par un bruit épouvantable, épouvantable. Un bruit d'enfer. C'était en fait un camion qui venait livrer les poutres métalliques dans la cour de l'Institut, destinée à construire le futur bâtiment dont j'étais le directeur. Il était en construction. Et le même jour a eu lieu la première grande manifestation du nord de Téhéran jusqu'au centre de Téhéran, où les manifestants donnaient des glaïeuls aux soldats qui étaient là. Et c'était le début de la révolution islamique à Téhéran. Et j'avoue que entre le boucan du matin qui m'a révolutionné mon réveil, et ensuite ces manifestations extraordinaires et pacifiques, qui avait déferlé dans tout Téhéran, c'était l'ouverture d'une nouvelle histoire qui a fait que je me suis intéressé beaucoup plus à la question de pourquoi cet événement arrive, pourquoi moi je n'ai rien vu, pourquoi personne n'avait rien vu, et ça a été un peu l'aventure de ma vie.
Alors on a parlé bien sûr de révolution islamique, on en parle aujourd'hui comme ça, mais à l'époque il n'y avait pas que les islamistes qui participaient à cette révolution, je crois qu'il faut qu'on me le redise, parce que Bernard Ourcade, on a tendance à l'oublier.
Il faut le dire et le répéter. Ça a été une révolution pacifiste, sans violence de la part des manifestants. Il n'y a pas eu de guerre civile. Il n'y a pas eu de combat de rue. L'armée du chat, qui avait loi martiale, combattait les manifestants. Il y a eu beaucoup de morts, mais il n'y avait pas deux groupes qui s'opposaient. La révolution a commencé, en fait, avec des poésies, des récitals de poésie à l'Institut allemand Goethe, animé par le poète persan Ahmad Chamlou, qui était d'origine communiste, mais qui était un poète qui, plusieurs fois, l'a présenté au prix Nobel. Il aurait pu être prix Nobel de littérature. Et le premier soir, il y a eu 200 personnes qui ont écouté le récital de poésie. Deuxième soir, il y a 1000 personnes. Le quatrième soir, il y a eu près de 10 000 personnes. La police a dû disperser la foule. Les Iraniens ont commencé, et là ça a commencé à bouger. Et les Iraniens se sont rendus compte qu'ils ont commencé la révolution par de la poésie. Et en Iran, la poésie, ça compte. Et ce qui a permis à la fois qu'il y ait la poésie, un leader communiste, les libéraux étaient là, les nationalistes aussi. Et ce n'est qu'après coup que les islamistes sont rentrés dans la course pour prendre finalement le pouvoir.
Alors effectivement, la poésie, ça joue un rôle énorme. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'aller de temps en temps en Iran. Enfin, deux fois seulement, hein, avec de courts séjours. Mais ce qui m'a impressionné, justement, c'est que tous les Iraniens connaissent des poèmes. Et je l'ai vu quand on visitait un endroit où il y avait la tombe d'un poète. Tous les gens qui étaient là, les Iraniens, se sont mis à déclamer. Alors là, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Hafez, qui est donc le poète du XIVe siècle, qui est à Shiraz, qui a résisté aux Mongols. La ville de Shiraz n'a jamais été prise par les Mongols. Et donc, Hafez est le symbole de la résistance iranienne contre l'invasion étrangère. À l'époque des Mongols, à l'époque c'est les Américains. Dans beaucoup de parallélisme. Et aujourd'hui, par exemple, les mendiants dans la rue, avant, à l'époque du chat, vendaient des billets de loterie nationale. La loterie étant interdite par l'islam, les mendiants maintenant vendent des petits poèmes de Hafez dans un petit bout de papier. Et donc vous donnez vos 2 euros aux mendiants et vous déroulez le petit bout de papier qui vous annonce des choses catastrophiques. C'est-à-dire des vers d'Hafez. Si vous donnez 5 euros aux mendiants, il vous donnera un petit bout de papier beaucoup plus optimiste. Et tout le monde vénère Hafez. C'est beaucoup plus que l'islam, que la nation iranienne, que l'individu. Quand on est marié avec sa femme, devant le mollah, devant le notaire, ça compte pas. On va à Hafez, on va à Shiraz. Et sur la tombe de Hafez, le mari et la femme déposent une rose, et c'est ce jour-là qu'ils sont mariés, vraiment. Le reste, c'est du cinéma, c'est de la politique ou du droit. Mais le vrai mariage, c'est avec Hafez.
Alors Hafez, bien sûr, s'est affronté à la brutalité des Mongols, mais il a chanté aussi l'amour et le vin.
Ah oui.
Et on continue à le chanter, l'amour et le vin, donc.
Bien évidemment. Alors, certains disent non, et c'est pas faux complètement. Ça symbolise le vin, l'extase mystique. Quand vous avez bu un peu d'alcool, vous n'êtes plus vous-même, vous montez vers les dieux. Bon, in vino veritas. Bon, et puis ensuite, l'amour, c'est l'amour de Dieu pour les hommes et des hommes pour Dieu, de qu'est-ce qu'il y a de mal. Et l'amour humain n'est qu'à l'image, une petite image de l'amour infini de Dieu. Donc il y a moyen de réunir des choses parfaitement humaines à des choses parfaitement divines. Et les Iraniens sont experts dans ce genre de choses.
Alors Bernard Ourcade, là on a parlé de 1979, donc la révolution, mais malheureusement, dès 1980, la guerre entre l'Iran et l'Irak arrive. Et vous étiez aussi sur place ?
J'étais sur place. C'était un peu impressionnant. On avait entendu d'abord un grand boom, une explosion. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Et c'était les premiers bombardements irakiens sur l'aérodrome de Téhéran. Et on s'est rendu... Les choses étaient difficiles à l'époque. Les Iraniens, l'Iran est un pays en pleine révolution, donc expansionniste, voulant libérer le peuple musulman dans son ensemble, libérer Jérusalem, tout un discours normal de révolution outrancière. Mais l'attaque d'Irak, c'était autre chose. Par les Irakiens, c'était autre chose. C'est la volonté de Saddam Hussein de profiter de la désorganisation de l'armée iranienne, du gouvernement iranien, du fait qu'à l'époque, le pouvoir politique n'était pas encore concentré. Khomeini était revenu et donc avait apporté à la révolution aux quelques poètes du début, aux quelques libéraux qu'il y avait, aux quelques nationalistes qui avaient fait la révolution, aux technocrates qui voulaient que ça change. Les Khoméinis ont apporté la masse de la population. C'était plus 10 000 manifestants, c'était 2-3 millions. Et ce jour-là, l'événement le plus important que j'ai vu dans ma vie, ça a été la manifestation de l'Ashura, c'est le jour de la mort de l'imam Hussein, qui est célébré traditionnellement en Iran par des processions de pénitents. Il y avait 2 à 3 millions de personnes dans la rue, pacifiques. C'est un mouvement infini, avec des femmes en chador. On n'a jamais vu des femmes en chador noires dans les rues par dizaines de milliers. Un spectacle à vous couper le souffle, extraordinaire. Il y avait des chars d'assaut qui étaient à 500 mètres. prêt à tirer si jamais il y avait quelque chose qui se passait. Un événement incommensurable. Mais après tout cela, les choses se mettaient en place. Les libéraux étaient là, les réformateurs, les démocrates, les républicains, les marxistes, les roménistes. Rien n'était fait. Jusqu'à ce que Saddam Hussein veuille prendre le pétrole iranien et ainsi, prenant le pétrole, la province pétrolière, être le plus grand producteur de pétrole du Moyen-Orient face à l'Arabie saoudite et d'ainsi d'écraser son partenaire iranien et d'être peut-être le futur maître des lieux saints, l'Arabie saoudite étant un pays sous-développé et faible à l'époque, et l'Irak de Saddam Hussein devenant le roi du Moyen-Orient. Le problème, c'est que les Iraniens désorganisés avaient une arme extrêmement puissante qui est le nationalisme et l'amour de la patrie. Et l'armée du Shah s'est battue pour la première fois, faite par le père du Shah, l'armée nationale iranienne s'est battue pour défendre la patrie iranienne. Et donc une guerre populaire qui fait que Saddam Hussein s'est tombé sur un os. Il n'a pas réussi à prendre l'Iran. Une résistance, mais qui fait que lorsqu'il y a une guerre, forcément tout le monde est derrière le chef de l'État. Les divisions sont tues et écrasées. Et donc c'est grâce à Saddam Hussein que le chef de l'État de l'époque, l'ayatollah Khomeini, est devenu le seul chef pendant 8 ans. Il a construit ainsi un système politique très efficace qui dure jusqu'à aujourd'hui. Merci, M. Saddam Hussein. Vous avez réussi à mettre en place M. Khomeini et la République islamique. Merci, M. Saddam Hussein.
Oui, Bernard Ourcade, Saddam Hussein n'était pas seul. Il avait beaucoup d'aide de l'Occident pour essayer de faire chuter Khomeini et puis le guide suprême, quoi.
Tout à fait. Il faut bien dire qu'à l'époque, nous étions en pleine guerre froide. Il y avait les Pershing et les SS-20 faisant face à face, les missiles nucléaires. La guerre nucléaire était quand même presque présente chez nous. Et l'Iran, qu'est-ce que c'était l'Iran à l'époque? Le Shah, pour une politique, ce n'est pas important. Le Shah était le rempart contre les communistes, contre l'URSS. Puis longue frontière contre l'URSS. L'armée américaine qui avait 60 000.
Attendez, puisque vous êtes géographe, dites-moi par quel pays est entouré l'Iran? Parce que c'est intéressant, il y a énormément de pays qui entourent
absolument
l'Iran.
L'Iran est, après la Russie, le pays qui a le plus grand nombre de voisins frontaliers. 15 pays. C'est pour ça que l'Iran se sent encerclé. Depuis toujours, c'est pas d'aujourd'hui. Si vous faites le tour, vous avez le Turkménistan, vous avez le Kazakhstan, parce que le Kazakhstan, la mer Caspienne est un lac. Donc frontalier du Kazakhstan, de la Russie, de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, de la Turquie, de l'Irak. Même chose pour le Golfe Persique, dont le fond de la mer a été partagé à l'époque du départ des Anglais en 71. Donc l'Iran est frontalier du Koweït, du Bahreïn, de Qatar, de l'Arabie Saoudite, d'Oman, du Pakistan et d'Afghanistan. 15 pays frontaliers. Si on vous propose le job de ministre des Affaires étrangères au Liran, refusez le job, c'est pas possible. 15 relations bilatérales, ce qui explique que l'Iran est très sensible à ces questions de frontières, de dangers extérieurs, de problèmes multiples. Et Saddam Hussein, à l'époque, effectivement, était le représentant des pays, des technocrates. La France et Chirac étaient très amis de Saddam Hussein, voyant là un jeune colonel qui est un peu rude en matière de démocratie, c'est évident, mais enfin, qui était capable de faire régner une laïcité socialiste, c'est le parti Baas au départ, et ces religieux un peu bizarres qui étaient au pouvoir en Iran, anti-israéliens, c'était important, étaient finalement pas très fiables contre les Russes, contre les Soviétiques. Et donc si Saddam Hussein faisait tomber la république naissante des religieux, c'était un moyen de mettre un gouvernement vraiment anti-soviétique à Téhéran, sûr, ami de l'Occident, ami d'Israël. Et donc tout cela a fait que tout le monde a soutenu Saddam Hussein contre les méchants iraniens de Khomeini. C'était une vision un peu simpliste des choses, mais c'est un peu la réalité qui s'est passée.
Alors nous sommes en compagnie de Bernard Ourcade sur l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Normalement, on doit avoir de temps en temps une petite respiration musicale. Bon, aujourd'hui, notre ami Pedro Fidalgo n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Donc, nous allons continuer, Bernard Ourcade.
Avec plaisir.
De continuer de parler d'Iran. Je crois que vous êtes amoureux de l'Iran.
Oui, hélas, ou tant mieux, parce que c'est effectivement, on en parlera, un pays tout à fait exceptionnel, si vous voulez. L'Iran, ce sont nos cousins, ils sont indo-européens. Quand nos arrière-arrière-arrière-grands-pères sont venus de quelque part de l'Est, une partie sont allés vers le Nord, et ils sont arrivés jusqu'en Bretagne, ils ont été coincés, ils ne vont pas aller plus loin, ils ne sont pas allés en Amérique, ce sont les Européens. Une autre branche est passée au sud de la Caspienne, et ils ont été bloqués par la Mésopotamie, où il y avait des civilisations et des gens implantés là, donc ils sont restés sur le plateau iranien. Et sur le plateau iranien, qui est entouré de montagnes, à 1000 mètres d'altitude, ça fait donc comme une forteresse où les Indo-Européens sont installés. et dont les langues iraniennes sont des langues proches des langues européennes du point de vue grammatical et linguistique. Et donc c'est une identité tout à fait originale. Ils ne sont pas turcs, ils ne sont pas indiens, ils ne sont pas arabes, ils sont iraniens. Et cette identité linguistique et culturelle, on a parlé de la poésie de Hafez tout à l'heure, est très importante parce qu'ils ont été islamisés lors de la conquête arabe au 7e siècle, 8e siècle, mais pas arabisés. En Syrie, on parlait le grec, on parlait l'araméen, on parle arabe. En Égypte, on parlait le copte, les langues précédant l'arabe, on parle arabe. Toutes les régions ont été arabisées. La Turquie est un pays où on parlait l'arménien, on parlait le grec. Les Turcs sont arrivés, on parle turc aujourd'hui. Mais pas en Iran. Les Turcs sont venus en Iran, ils ont gardé leur langue. Les Mongols sont venus, ils ont gardé leur langue. Et cette unité culturelle de l'Iran, cette résistance iranienne, est extrêmement importante et est récupérée par le gouvernement d'aujourd'hui, qui dit résistance aux Américains, résistance à Israël, résistance aux Français, résistance à tout le monde. Nous comptons sur nos propres forces, c'est un discours nationaliste bien connu, mais qui a une base populaire incontestable. Quand on dit défendons la patrie, défendons notre culture, que l'on soit mollah ou général ou chat, peu importe, ça parle aux Iraniens. Et on trouve là une base sociale, un certain consensus qui, ma foi, a été utilisé largement par le chat et largement par la République islamique.
Alors Bernard Ourcade, bon, vous parlez souvent de l'Iran. Je vois que lorsqu'il se passe quelque chose en Iran, on vous appelle pour avoir votre avis. Mais je crois que vous avez aussi publié des livres importants, et c'est ce qu'il faut quand même qu'on signale. Moi, celui que j'ai lu avant de partir en Iran, que vous avez publié, je crois, en 2016, vous allez me corriger si je me trompe sur la date, « Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance » chez Fayard, en 2007.
2007, c'était l'Iran 20e siècle.
Oui. Ah voilà.
Et ensuite, la géopolitique de l'Iran, donc en 2011 et repris en 2016, parce qu'il s'agissait de voir effectivement comment, après la signature de l'accord sur le nucléaire, sur lequel on reviendra, je pense, une nouvelle phase de l'histoire de l'Iran commençait, après 40 années d'opposition aux États-Unis, d'opposition au monde entier, de sanctions économiques très dures contre l'Iran, un accord était trouvé pour que le nucléaire iranien soit sous contrôle, et ne soit pas nucléaire militaire, qui aurait mis en danger le monde entier, et que les sanctions économiques soient levées. Autrement dit, toute la classe moyenne iranienne, qui est la plus, très active, qui s'est transformée complètement, en étant une des sociétés les plus éduquées, les plus instruites du Moyen-Orient, cette classe moyenne pouvait faire de l'Iran une grande puissance moderne. Et progressivement, l'Iran, qui est un pays ostracisé, tous les pays considèrent l'Iran comme un ennemi, comme un adversaire, déstabilisateur, le père du terrorisme mondial, etc., etc. L'expansion économique, l'ouverture économique internationale aurait peu à peu rendu impossible l'ostracisme contre l'Iran et le régime politique à l'intérieur. Et donc aboutir après une économie à un changement social et un changement politique. Ceci était en route. C'est pour ça que j'avais appelé ce livre « Les défis d'une renaissance ». Parce qu'effectivement, la renaissance iranienne était possible. Il y avait un nouveau logiciel après 2015, mais des défis gigantesques, puisque ces défis n'ont pas été relevés. Puisque en 2018, Donald Trump déchire l'accord et la renaissance iranienne est à nouveau détruite ou cassée, et on le voit aujourd'hui avec une double fracture. D'un côté, les Américains qui bloquent l'ouverture, et de l'autre côté, le régime islamique qui saisit cette opportunité pour être encore plus radical qu'il l'était avant.
Alors Bernard Ourcade, on en arrive à l'actualité finalement, grâce à votre liaison, parce que j'ai lu un article que vous avez déjà publié dans une publication documentation photographique, Iran, paradoxe d'une nation, la révolution des Iraniens. Alors là, on est en pleine actualité. Et puis j'ai vu aussi, sur ce que vous m'avez envoyé, un article que vous avez publié sur Orient 21. Alors je conseille Orient 21, qui a été créé par Alain Grèche, que nous connaissons bien au monde diplo, et avec lequel on a fait déjà des émissions pour Radio Libertaire.
J'imagine.
Alors là, vous avez écrit vous en avez écrit plusieurs, mais sur la révolte de la troisième génération. Alors là, on va y arriver à cette révolte-là. Cette révolte, disons, qui a démarré le 13 septembre 2022, Mahsa Amini, jeune femme de 22 ans, a été arrêtée par la police. De la moralité, puisqu'elle portait pas son voile tout à fait correctement. Et trois jours après, dans le commissariat, elle meurt. Alors là, donc, ça crée une révolte énorme en Iran, telle qu'on n'en a jamais connue, je crois.
C'est un phénomène tout à fait exceptionnel. Nous autres chercheurs en sciences sociales, ça fait des années que nous constatons que la société iranienne évolue de façon tout à fait surprenante dans un système politique également surprenant qui va à l'encontre de ce que veut la population. Dans un paradoxe, d'un régime assez fermé, assez incapable de voir des ouvertures, des progrès, incapable de voir le potentiel qu'il y a dans le pays véritablement, et une société qui explose littéralement. On a parlé tout à l'heure de la révolution de 1979, où le Shah, la plus ancienne monarchie du monde, s'effondre par un mouvement populaire, finalement sans combattre. Et le Shah est parti sans combattre. 7 février 1979, c'est l'anniversaire de la révolution aujourd'hui même, hein, 11 février, l'arrivée prise du pouvoir par Roménie. Mais ce jour-là de février 1979, à mon avis, il y a deux événements importants, peut-être plus importants que la chute du Shah et l'arrivée de Roménie. C'est la première fois de l'histoire millénaire de l'Iran que la moitié des Iraniens habitent en ville et que la moitié des Iraniens savent lire et écrire. La courbe, les 50% arrivent là et l'urbanisation continue après jusqu'à 80% aujourd'hui et la scolarisation continue aujourd'hui jusqu'à 95%. Autrement dit, la société iranienne qui a évolué depuis les années 1930 et la révolution blanche du Shah a incontestablement, malgré ses 1000 défauts, lancé la société iranienne dans le développement et l'émergence. Et ces gens-là, en 1979, ont dit le Shah est un peu rétrograde, il bloque la démocratie, on est plus fort que ça, donc le Shah, on va trouver quelque chose d'autre. Ils se sont fait piéger par la suite, mais c'est autre histoire. Mais malgré le piège de la République islamique, la société a continué sa révolution intérieure. Et dans un combat extraordinaire, et un combat d'autant plus fort quand il a été mené par les femmes. Puisque, comme dans beaucoup de pays, mais encore plus dans des pays musulmans, les femmes sont dans une situation très marginale, très méprisée, le machisme et le patriarcat est encore plus fort. Et elles ont été, parce qu'on leur a imposé le foulard. C'est rien du tout un bout de chiffon sur la tête, mais symboliquement c'est inacceptable à une société féminine qui est en pleine expansion. Et donc parce que justement le port du voile était stupide, était un symbole d'humiliation gratuit en quelque sorte, que c'est devenu quelque chose de le symbole de toute une oppression. Mais ça n'a pas empêché les Iraniennes de continuer à évoluer. Et l'Iran est le pays où la chute de la fécondité, le nombre d'enfants par femme, qui était un indicateur très important de l'évolution d'une société, s'est effondré littéralement. À l'époque du Shah, c'est 6 ou 7 enfants par femme, et aujourd'hui c'est moins qu'en France, 1,7, moins qu'en France. Ce qui signifie un changement de culture, de relation entre hommes et femmes, de système social, de système philosophique extrêmement profond. Et ceci a été vu, et nous autres chercheurs en sciences sociales, c'est Marie Ladier, avec qui je ne suis pas toujours d'accord aujourd'hui, qui était l'autre jour dans la réunion à la Bourse du Travail, qui m'a apporté la contradiction, mais c'est quelqu'un qui a fait une découverte exceptionnelle, qui était la première en démographe à montrer la chute de la fécondité. Elle s'est fait insulter par tout le monde. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Roménie a dit « faites des enfants ». C'est pas possible, dans une dictature, les Iraniens n'ont moins d'enfants. Elle a dit « c'est pas Roménie qui est en cause, c'est pas lui qui fait des enfants, c'est les Iraniens et les Iraniennes ». On a donc vu un changement. Ma collègue Azadeh Kian a étudié la construction des mouvements de femmes. Fariba Dara, qui est aujourd'hui en prison depuis trois ans et encore deux ans à faire, est la première à avoir analysé justement ces femmes islamiques qui ont été les premières à manifester dans la rue et qui ont fait tomber le régime, qui ont fait basculer les femmes traditionnelles dans la révolution, qui ont fait tomber le Shah. C'est un phénomène extraordinaire. Et elle était la première à étudier ça. C'est pour ça qu'elle est en prison, à mon avis. Moi-même, j'ai montré l'émergence des banlieues. Et des banlieues de Téhéran, et aujourd'hui Téhéran, c'est la ville de Téhéran, mais les banlieues sont plus importantes que la ville de Téhéran. Et c'est là que ça se passe. Nous avons donc montré tout cela, et on s'attendait à ce qu'un jour il se passe quelque chose, que ça se traduise en termes politiques, et pas simplement en des articles de revues savantes montrant l'évolution de la société iranienne. Bon, ça c'est notre job de chercheur, mais on était un peu fatigué, un peu désespéré en disant on écrit, ça change, mais rien ne change. Et donc quand on a vu 2015, on s'est dit ça y est, l'accord sur le nucléaire va permettre enfin la libération des Iraniens. Ils vont pouvoir donner ce qu'ils ont dans le ventre, tout ce qu'ils savent faire, et le régime va être obligé de céder la place. Et puis Trump arrive et déchire l'accord. Résultat, les Iraniens sont KO debout. La classe moyenne iranienne nouvelle, d'origine populaire. Les étudiants iraniens aujourd'hui sont très nombreux en Iran, pas à l'étranger. Et donc, ils ont été KO debout. J'étais ingénieur chez Peugeot, j'avais un très bon salaire, je dirigeais une entreprise de 700 ouvriers. Et du jour au lendemain, c'était fini. Peugeot a dû partir et je me retrouve au chômage, alors que j'avais une perspective extraordinaire. Et comme moi, j'ai des dizaines, des centaines, des milliers d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers qui avaient des opportunités qui ont été cassées. Donc, un grand coup sur la tête. Et puis, les choses vont vaille que vaille, ça traîne, ça n'évolue pas, on en parlera tout à l'heure, je pense. Et puis, arrive un accident. On n'a pas tué Amir Khamenei volontairement, mais le système était de nature à la tuer. On arrête quelqu'un pour un fichu foulard mal placé. Parce qu'effectivement, les plus radicaux en Iran ont dit la société veut l'ouverture économique. C'est fini, on ne pourra pas l'avoir. Si on laisse faire comme ça, la société iranienne, notre révolution islamique va perdre son âme. Donc il faut être très strict sur le plan de religion, sur le plan des mœurs. Et Raisi, le président de la République élu en 21, avec pour la première fois 52% d'abstention en Iran, un record historique. Ce personnage-là, qui est un personnage falot, mais efficace, il a réformé la police en décembre 1921. Réformer la police pour que les carnets de la Révolution et la police nationale soient bien unifiés et coordonnés. Et ma foi, quelques mois plus tard, cette même police bien organisée a tué Mahsa Amini et 500 autres personnes, déclenchant un mouvement qui est un mouvement profond. Un mouvement, je disais, d'une révolution culturelle. Non pas pour dire que c'est culturel, c'est pas politique, non. Culturel, c'est-à-dire existentiel, profond, qui sort des tripes. Ça touche la vie des gens. Et ceci est en marche, et dans tout ce que nous autres chercheurs en sciences sociales, c'est moi d'être un peu long, mais avons montré depuis 40 ans, ça explose au plein jour aujourd'hui. La société iranienne et le sang des 500 personnes qui ont été tuées par la police scellent un peu cette révolution qui ne pourra pas revenir en arrière. Parce que quel que soit le gouvernement iranien, il y a beaucoup de chercheurs iraniens en Iran qui publient cela, disant, peu importe l'évolution politique du pays, mais ce qui vient de se passer est un mouvement profond, long et durable, qui va profondément changé la culture européenne, iranienne, comme mai 68 par exemple avait profondément changé la culture dans les pays occidentaux, sans forcément changer le gouvernement.
Alors nous sommes en compagnie de Bernard Ourcade, géographe et en même temps chercheur émérite au CNRS, qui nous parle aujourd'hui de l'Iran. Nous avons parlé un peu de l'histoire de l'Iran et puis nous parlons maintenant de l'actualité. Et justement de cette révolte qu'on peut presque appeler peut-être même un jour une révolution, qui est faite essentiellement par les femmes, et c'est ce que j'avais remarqué moi aussi en 2019 lorsque je suis allé en Iran. On avait fait un article dans notre petit journal où on avait dit que les femmes et les jeunes allaient faire bouger les choses, parce qu'on avait déjà remarqué leur attitude très contestataire. Et aujourd'hui, vous dites ce sont les petites filles de Khomeini, ce sont pas ceux qui ont fait la révolution de Khomeini qui sont dans la rue, ce sont leurs petits-enfants.
Oui, les générations ça compte, on n'a pas forcément pas la même culture. Il y a une première génération des gens qui ont à nos âges, qui ont passé 60 ans, qui ont fait la révolution, qui avaient 20 ans à la révolution, et qui ont été des combattants contre le Shah, qui ont fait la guerre Irak-Iran. L'Iran d'aujourd'hui est dirigé par les anciens de la guerre Irak-Iran, les anciens combattants dans tous les pays du monde. Après une guerre, les anciens combattants dirigent les pays pendant 50 ans qui suivent. Ce n'est pas en France qu'on dira le contraire. Donc, cette vieille génération est là. Ils tiennent le pays. Après la révolution, après la guerre, les anciens généraux, les anciens officiers ont fini leurs études. Ils sont devenus ambassadeurs, directeurs d'entreprise, chefs, directeurs d'administration, bref. Toutes les élites iraniennes sont issues de la révolution et de la guerre. Ils ont 60, 70 ans aujourd'hui. Mais ils sont toujours en place et fort actifs. Et du point de vue économique, politique, religieux, dans tous les domaines. Ces gens-là ont ensuite n'étaient pas des religieux, c'est pas les talibans qui interdisent l'école. Mais au contraire, des gens modernes. Et Khomeini disait, je veux un islam moderne, un Iran moderne. Et donc s'appuyant sur cette dynamique. Et donc l'éducation est très importante dans ce pays-là. La révolution islamique a été très importante et créant la deuxième génération, je vais y arriver, parce que à l'époque du Shah, dans le centre de l'Iran, persanophone, les filles allaient à l'école, plus ou moins. Mais c'était des instituteurs, souvent, qui étaient dans les villages. Et même tout le monde parlait persan. Mais dans un village un peu reculé, est-ce que vous imaginez que votre fille de 12 ans, moi qui suis un paysan, je vais l'envoyer à une école où c'est un jeune type de 30 ans qui est instituteur? Jamais ma fille, en plus il n'y avait pas de voile à l'époque, ira toute nue, c'est-à-dire en petite jupe, avec comme instituteur un jeune homme de 30 ans. C'est pas possible, donc ma fille ne va pas à l'école. Et concrètement, la scolarisation des filles, notamment, dans les zones rurales, les petites zones, était extrêmement médiocre. Que se passe-t-il à la révolution islamique? Pour islamiser ces villages, qui n'ont pas été très révolutionnaires d'ailleurs, et pour leur apprendre la vraie religion, la vraie politique, on a envoyé des institutrices avec leur foulard noir, aller apporter la bonne révolution anti-sioniste, anti-révolutionnaire, anti-Saddam Hussein et anti-américaine dans les villages, mais aussi pour apprendre aux filles à lire et à écrire. Et donc finalement, les filles des villages ont au moins appris à écrire et à lire en persan, première fois, dans un village kurde, balouche, ou azéri ou turkmène. Tout le monde a appris le persan, alors que les parents ne parlaient pas. Et elles ont peut-être oublié la révolution islamique, mais elles ont appris le persan. Résultat, cette génération, cette fille qui avait 10-12 ans, elle est rentrée au collège après, parce qu'il y avait un petit collège qui a été créé à côté, à 5 km, on peut y aller à pied tous les jours. Et puis après le collège, elle n'était pas mauvaise, et il faut aller au lycée. Le lycée, c'est plus loin, il y a 15 km. Maintenant, il y a un autobus qui y va, il y a une route. Et donc, papa, est-ce que je peux aller au lycée faire mes cours de chimie? Et le père est un peu obligé, il est pour quand même la modernité, il est obligé de laisser sa fille faire 15 km tous les jours pour aller au lycée. Et puis elle a le bac. Elle n'est pas mauvaise. Il dit, papa, est-ce que je peux faire un IUT? Alors, papa, l'université, non, mais il y a un IUT de chimie à 20 km de là, et il y a même un autobus, je peux y aller, et coucher chez notre oncle qui est là-bas. Donc la fille fait son IUT, puis ensuite elle va à la fac. Et puis aujourd'hui, cette fille, elle a 30 ans, elle n'est toujours pas mariée, elle a un petit copain qui n'est même pas de village, hein. C'est un scandale, elle est ingénieure en chimie, et cette femme-là, qui n'aura pas 8 enfants comme sa mère, mais elle en aura peut-être un ou deux, n'a aucun rapport avec sa mère, qui était une des révolutionnaires, qui a défilé dans Téhéran pour Roménie à l'époque contre le Shah. Et donc cette génération qui aujourd'hui des 30-50 ans, si vous voulez, qui ont été transformée complètement par tout ce qui s'est passé en Iran, avec l'ambition d'un grand pays, est bouffée, écrasée par le système politique qui était un peu inadmissible. Mais ils ont quand même diplôme d'ingénieur, ils vivent pas si mal que ça. Alors certes, le foulard, c'est un peu embêtant. Pour acheter une bouteille de bière ou un verre de vin, c'est compliqué, quelquefois on est embêté, on ne peut pas danser, c'est pas drôle l'Iran. Mais enfin bon, on se débrouille.
Mais il y en a qui le font un peu clandestinement quand même.
Absolument. Hein. Si vous voulez de la bière en Iran, c'est aucun problème. Oui. De l'alcool, de toutes sortes de choses, il suffit de commander et c'est livré. C'est pas
de la danse qui se fait dans des lieux un petit peu fermés.
C'est le paradoxe. on peut trouver un accommodement, finalement. Et puis, si l'accord sur le nucléaire avait été signé, si j'avais pu trouver un emploi chez Total à Téhéran, puisque je suis chimiste, n'est-ce pas, j'aurais pu finalement avoir un bon emploi. Et puis, bon, la République islamique, je suis contre, j'en ai assez. Mais bon, mes parents ont fait la révolution, ça n'a pas donné le meilleur résultat. Donc, faire une révolution pour qui, pourquoi, je n'en sais trop rien. Bon, d'abord, il faut vivre, et donc je vis. Deuxième génération, la plus nombreuse, parce que cette génération a eu peu d'enfants. Donc, aujourd'hui, les jeunes, en fait, sont peu nombreux en Iran. Les moins de 25 ans sont peu nombreux. Moins que les générations fortes des gens qui sont nés à l'époque, la fécondité était encore à 3 ou 4 enfants ou 5 par femme. Ces jeunes disent, bon, mon grand-père a fait la révolution, gloire à lui, il a résisté à Saddam Hussein, bravo papy. Mes parents sont très gentils, ils m'ont permis d'aller à l'université, mais ils s'accommodent du système, et ce système est irrespirable. Alors, je n'ai pas les contraintes de mon père qui doit gagner de l'argent pour vivre, mais donc j'en ai marre. Et c'est, je crois, Tocqueville qui a dit que lorsque un petit détail devient... est mis en cause, ça devient une révolution. Le tchador d'Amini, le voile d'Amini, c'est stupide, ça ne représente rien du tout. Mais c'était pour la République islamique quelque chose d'essentiel. Regardez, on a des dangers du nucléaire, les Américains qui nous ont cassé, la crise économique est profonde, une inflation à 50%, une opposition avec l'Irak, avec l'Arabie Saoudite, Daesh qui est arrivé, tout ça, et vous nous embêtez pour une histoire de tchador. Enfin, c'est impensable, un truc pareil. C'est révoltant. Et les jeunes disent, je me révolte. Il n'y a pas de solution. C'est tellement stupide ce genre de choses que je veux que le système s'en aille. Je veux abattre le dictateur. Je veux que ces molles-là disparaissent, que la République islamique disparaisse. Le problème, c'est que, entre le souhait bien compréhensible de ces jeunes qui disent, j'en ai marre et plus que marre, je ne veux pas des compromissions, je veux faire table rase du passé, oui. Mais en face, il y a un gouvernement islamique qui est fort et solide. Et ma foi, entre un mouvement qui a une potentielle révolutionnaire et une révolution, il y a une marge que, ma foi, on n'a pas encore franchie.
Alors Bernard Hourtade, j'ai lu dans un de vos livres, d'une publication, « La révolte des jeunes femmes marque donc un tournant dans l'histoire de la République islamique, car elle signe la fin du consensus révolutionnaire de 1979 qui unifiait malgré tout la vie politique du pays. » Cela ne signifie pas que les institutions vont s'effondrer. Cela ne justifie pas que les institutions vont s'effondrer.
Oui, j'écrivais ça il y a quelque temps. Il faut pas. Je comprends mes amis iraniens qui disent dans ce mouvement, dans le fond, il représente toute la dynamique du peuple comme les poèmes de Le Chamlou et l'Institut Goethe en 1977 ont été le début, c'est l'étincelle qui a déclenché un processus révolutionnaire qui a fini par embarquer toutes les couches de la population, les marxistes, les libéraux, les nationalistes, la droite, la gauche, les islamiques, tout le monde est parti dans ce mouvement. Et aujourd'hui, le mouvement des femmes, qui est assez exceptionnel et qui a duré pendant plusieurs mois quand même, est très dispersé, sans chef. C'est un mouvement spontané et universel. Parce que maintenant, comme il n'y a plus d'opposition entre Kurdes, Baloutches, Azéris, Turcomènes, etc., tout le monde parle persan. Donc, ce problème de l'oppression islamique, il est partout en Iran, autant à Téhéran que dans les banlieues, que dans les provinces les plus reculées. Il y a une unification de la sociologie, de la perception. Et des médias, en plus, la radio nationale iranienne, télévision, va partout. Donc, tout le mouvement est unifié. Ils disent, donc, ce mouvement, il va donc prendre tout l'Iran dans son ensemble, et le régime va tomber. Oui. On peut le souhaiter. Moi, ici en France, mon job n'est pas de militer pour la chute du régime birman ou iranien, etc. Ce n'est pas ma position, ce n'est pas mon devoir. C'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, en tant que chercheur en sciences sociales, j'ai vu les dynamiques. Et ça a été, dans le petit bouquin de photos que je montrais, c'était ces dynamiques de la société iranienne, dans tous les domaines. Kiarostami, la palme d'or à Cannes, le cinéma iranien, c'est Paris, on en reparlera peut-être. Dans tous les domaines, l'Iran explose. Bon. Et donc, cette dynamique, elle est arrêté, bloqué par un système politique qui a fait son temps. Il a eu son, c'était une vraie révolution à l'époque. Khomeini a eu son rôle, mais il n'a pas été incapable d'évoluer. Désormais, les religieux qui ont peur de l'évolution deviennent de plus en plus radicaux et conservateurs, rétrogrades. Les gardiens de la révolution, l'armée qui a libéré le pays, qui a combattu courageusement contre Saddam Hussein, ils sont embarqués dans les business et des trafics à n'en plus finir. Donc, ils n'ont plus la dynamique révolutionnaire qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans. Donc, ils s'accrochent à leur argent. C'est classique. Désormais, le système politique est sclérosé complètement et incapable de répondre à une liberté. Comme le système du chat ne pouvait pas. Mais à l'époque, c'était la guerre froide. À l'époque, on ne peut pas comparer. Et donc, de dire aujourd'hui que les aspirations de la population iranienne sont les mêmes qu'en 77, oui, incontestablement, même beaucoup plus fort aujourd'hui, beaucoup plus universel qu'aujourd'hui. Mais regardons la réalité. Regardons la réalité des rapports de force. La police, elle est là. Elle tue avec efficacité. Elle réprime de plus en plus. Change de technique. Et donc, les institutions sont là. Et pour faire tomber des institutions, il faut être efficace. Il faut connaître son ennemi, son adversaire, et savoir les points faibles, les points forts, les alliés, les ennemis. Et c'est quelque chose de difficile.
Alors, Bernard Ourcade, effectivement, bon, la répression, on en entend parler hein, quand même. Bon, c'est pas exactement comme il y a de victimes, parce que il est très difficile aujourd'hui de se rendre en Iran, de savoir exactement, mais enfin, on sait que par exemple, il y a, ce qui impressionne beaucoup, bien sûr, une des condamnations à mort de jeunes manifestants, et ça, c'est quand même impressionnant. Mais vous dites aussi, les recherches et enseignements sont soumis à un contrôle strict des autorités aidées par les milices d'étudiants islamistes, omniprésents, qui rapportent chaque jour les propos suspects. Donc on est surveillé même dans l'université, dans les instituts de recherche. La condamnation à 5 ans de prison de notre collègue de Sciences Po, Fariba Adelka, a également pour but de dire clairement aux chercheurs iraniens comme français qu'il n'est plus question d'aller voir de près comment vivent et ce que pensent les Iraniens. Alors ça, c'est terrible, parce qu'ils s'isolent.
Oui, c'est terrible pour tout le monde. Donc l'Iran s'isole parce qu'il pense qu'effectivement tous les pays voisins, les 15 voisins, sont des pays hostiles. Et donc ils peuvent compter sur leur propre force, ce qui peut être une dynamique, ma foi, nationaliste, qui peut se comprendre. Mais c'est une volonté de se replier sur soi-même et de... le gouvernement iranien a la peur de l'étranger. Il a peur que quelque chose de l'extérieur vienne. Comme les Grecs sont venus, les Arabes, les Mongols, les Turcs ont ruiner l'Iran, les Anglais, les Américains, il y a ce sentiment obsidional d'être victime de l'extérieur. Donc il faut couper les frontières avec l'extérieur. Le danger vient de l'extérieur. Et le modèle le pire pour les religieux, c'est pas tellement l'économie, bien qu'ils disent qu'il faut une économie de résistance aujourd'hui. C'est l'agression culturelle occidentale, l'agression culturelle. Pour un religieux, le problème, c'est pas l'économie, la structure politique, ça peut se discuter, ça. Mais la culture, le tchador des femmes, les règles sociales, le contrôle de la musique, des arts, les questions culturelles sont essentielles, c'est le cœur d'une religion, c'est une question culturelle largement. Et donc, il s'agit pour eux d'imposer cela, et que la culture occidentale, même si elle est diverse, est perçue comme un danger pour la culture islamique, pour l'existence même de l'islam. Donc, ils veulent couper tous les ponts. Alors, hélas, l'Iran n'est pas le seul pays coupé. On sait qu'en Égypte, par exemple, l'Égypte est un pays qui était extraordinairement ouvert. Il y a une cinquantaine d'années, la littérature égyptienne, arabe, c'était le cœur du monde arabe.
Je peux en témoigner.
Exactement. Et or, tous les arabisants, tous les gens qui ont été amoureux de l'arabe avec le Caire et Damas comme capitale, sont maintenant désespérés. Il y a 3 ans, c'est un chercheur italien qui a été massacré au Caire, retrouvé mort dans une banlieue, dans un fossé, parce qu'il s'intéressait trop près à ce qui se passait. Ne parlons pas de Damas, c'est incommensurable, la misère de ce pays qui est un des plus beaux du Moyen-Orient, ravagé par des guerres comme cela. Donc, dans quel pays aujourd'hui peut-on regarder ce qui se passe? On ferme toutes les frontières. Un chercheur iranien ne peut pas travailler. Mes collègues iraniens en sciences sociales ne vont pas s'aventurer à écrire des articles sur les banlieues de Téhéran. Rien, on parle de choses un peu générales et aucun chercheur ne peut aller sur le terrain. On vit Corée du Nord. La Corée du Nord est très bien, le régime est stable, n'est-ce pas? Et les mollahs ne seraient pas fâchés d'avoir un système de la Corée du Nord, mais ils ne se rendent pas compte que l'Iran n'est pas la Corée du Nord. Et donc, on est effectivement dans un pays où la répression peut se faire clandestinement. Au sujet de la répression, mon ami Farhad Rosro-Ravar, qui a beaucoup publié sur le martyrisme, sur la sociologie des martyrs et de la révolution, et sur la répression en Iran, vient de sortir un livre qui va sortir dans quelques jours, sur justement la population iranienne contre le système politique, et où il fait un réquisitoire dramatique de toute la répression du système iranien depuis 40 ans.
Vous connaissez le titre de ce livre qui va sortir, parce que ça nous intéresse, on essaiera de se le procurer.
Oui, je n'ai plus le titre. C'est le peuple iranien, le peuple en révolte et le despote face au despote. Je n'ai plus le titre exact.
Bon, nous le mettrons sur
le site. Je vous enverrai la référence.
Parce que bon, tous ces livres nous intéressent, oui, parce que justement, ce sont des livres très récents qui font des analyses sur ce qui se passe
réellement en Iran
actuellement. Et oui.
Mais on ne sait pas, excusez-moi de continuer là-dessus, oui, mais on sait un certain nombre de choses, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont importants parce qu'ils diffusent l'information. Mais quand on reçoit de Téhéran une cinquantaine de vidéos, de phénomènes, de photos dramatiques sur la rue, c'est une cinquantaine d'informations qui sont vraies, bien évidemment. Mais l'Iran est un grand pays, c'est 85 millions d'habitants, c'est grand comme 2,5 fois la France. Et donc, il faut voir d'un côté la dynamique de la révolte, elle est incontestable. La cruauté de la répression est incontestable. Mais il faut voir aussi pourquoi la majorité de la population, la deuxième génération des 30-50 ans dont je parlais tout à l'heure, n'a pas rejoint la troisième génération. C'est là le problème. À l'époque, Roménie avait réussi à mettre tout le monde dans la rue. Il y avait un consensus révolutionnaire où tout le monde est venu dans la rue. Les libéraux, les communistes, l'islamiste, tout le monde y était. Un ami, anecdote, il faut bien rire un petit peu, un ami marxiste, stalinien, au possible. Il me dit, avant de manifester, de dire « Vive Roménie, vive Allahu Akbar », je buvais 3 verres de whisky et j'étais ainsi capable de parler comme ça, de dire Allahu Akbar. Mais il y avait consensus, il me dit « Je suis allé manifester pour Roménie ». Je m'en mords les doigts aujourd'hui, il disait ça, exilé en Allemagne de l'Est. Bon. Mais ce consensus qu'il y avait à l'époque, il n'existe pas aujourd'hui. Donc moi, chercheur en sciences sociales, mon devoir est de dire, un, la dynamique, elle est là, elle est incontestablement très forte, mais il y a des forces aussi de résistance, ou d'inertie, ou d'apathie. Et je fais de la géographie, et j'ai fait une carte des villes qui ont manifesté et des villes qui n'ont pas manifesté. La source étant les mouvements révolutionnaires. Autrement dit, c'est des sources plutôt optimistes en faveur de la révolution. Les villes où on a manifesté ont en moyenne 400 000 habitants. Les villes où on n'a pas manifesté ont en moyenne 80 000 habitants. On peut nuancer le chiffre. Mais globalement, la réalité est là. Les petites villes, où la répression est plus facile, parce que tout le monde se connaît, on peut difficilement manifester, ont moins manifesté que dans les grandes villes. Mais aussi, c'est une autre culture dans les petites villes, une autre société. Il faut réfléchir à cela. Et donc, c'est une réalité, cela. C'est une réalité. Alors, dire que dans les petites villes, on a manifesté, c'est vrai, mais majoritairement non. Alors, pourquoi? Et comment faire en sorte que ces gens des petites villes, qui ont manifesté en 2019 pour des questions économiques en particulier, rejoignent le mouvement de protestation et fassent un consensus. Pour une révolution, il faut un consensus. Il faut s'entendre au moins sur un programme commun minimum. On est loin du compte en Iran.
Alors Bernard Ourcade, on a évoqué donc cette révolte importante. On a évoqué la répression qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, ce que j'ai lu chez vous, toujours, Bernard Ourcade, le drame de la guerre, parce que nous sommes dans une émission pacifiste.
Oui, absolument, mais c'est...
Le drame de la guerre Irak-Iran, avec ses centaines de milliers de morts et de blessés, reste aujourd'hui une clé de lecture essentielle pour comprendre une vie politique largement contrôlée par les anciens combattants.
Oui.
Alors, cette guerre, malgré tout, on en ressent encore aujourd'hui les effets.
Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, une guerre fait des morts, hélas, fait surtout beaucoup d'anciens combattants. Et ces anciens combattants, en général, se drapent dans la gloire de la guerre pour garder le pouvoir de façon quelquefois très réactionnaire pendant des décennies. Bon. En Iran, on assiste au même problème, la même question. Il y a eu donc des combattants à la guerre, des militaires professionnels, des conscrits qui ont fait la guerre, et qui n'ont pas fait la guerre pendant 8 ans. Elle a duré 8 ans, la guerre, c'est très long. La plus longue guerre du XXe siècle. Elle a fait beaucoup de morts. Pas autant de morts que cela. Il y a eu 500 000, 600 000 morts en Iran, beaucoup de blessés ensuite. Mais c'est énorme, 500 000 morts. Mais en 8 ans. Donc, ce n'est pas le nombre de morts parce que la guerre n'a pas touché les villes. Les morts de la Seconde Guerre mondiale, c'est des bombardements dans les villes, des civils, pas des militaires. Les militaires sont assez forts pour ne pas se faire tuer à la guerre. Ils ont les gilets pare-balles, ils sont enterrés, ils ont des blindages. Les civils n'en ont pas. Donc, la guerre a fait quelquefois beaucoup de morts sur très peu de temps, sur un front très limité. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les gens ont tourné à la guerre. Ils ont fait 2 ans, 3 ans de front, après ils revenaient dans la vie civile. Ça fait donc, il y avait 1 million d'hommes sous le drapeau, 1 million d'hommes qui a tourné. Ça fait au total 5 ou 6 millions d'hommes qui ont été soldats pendant la guerre. Et ensuite, vous aviez les basidjis, les miliciens, pour aider, pour être brancardier, cuisinier, chauffeur, tous les petits métiers de l'intendance militaire. Ils ont embauché des miliciens qui étaient volontaires, certains comme chair à canon, mais aussi pour faire les tâches secondaires de l'armée. Ces gens-là, ces petits gens s'embauchaient comme volontaires, ils sont partis à la guerre, et ils sont revenus vivants, la plupart. Mais revenus vivants, ils avaient une carte d'ancien combattant. Cette carte d'ancien combattant leur donne des avantages. Il y a un concours au PTT pour être facteur dans le village. Tout le monde passe le concours. Comme par hasard, c'est moi qui ai été reçu, parce que j'ai fait 2 ans de Basidji, et donc je suis celui qui est le plus moralement apte à pouvoir distribuer le courrier, n'est-ce pas? Et donc c'est moi qui ai le poste de facteur. Pour mes qualités, certainement, de lettré, mais aussi parce que j'étais ancien combattant. Résultat, toute la société iranienne, après la guerre, a été contrôlée du ministre au chauffeur, au jardinier de le ministère de la Défense, par ces anciens combattants, qui avaient cette gloire de la guerre et qui ont fait évidemment un pouvoir conservateur, qui ont bloqué le système. Et c'est ça qui est un élément très important. Et alors, aujourd'hui, certes, la guerre est beaucoup plus loin. Les martyrs de la guerre sont morts et enterrés. Il n'y a plus cette logique. Les nouvelles générations disent « Désolé, papy, mais Verdun, c'était loin. Bravo, tu as résisté. Tu as fait la guerre, il fallait la faire. C'est une guerre imposée. » En Iran, on dit « La guerre imposée. » C'est pas faux. Et donc, une guerre pour la liberté, pour la démocratie, tout ça. Mais maintenant, c'est fini. Donc, il y a d'autres éléments. Donc, la guerre a aujourd'hui une valeur de répulsion. Et ce n'est pas la guerre contre Daesh qui a été appréciée par les Iraniens aussi, parce que l'Iran, entre nous, est le seul pays du Moyen-Orient à faire la guerre contre Daesh. Et les Saoudiens subventionnaient la guerre, mais c'est les Iraniens qui l'ont faite. Mais cette guerre est une sale guerre aussi. C'est la guerre du Hezbollah, c'est la guerre de Syrie, pour soutenir un dictateur, et pas forcément contre Daesh. Donc cette seconde guerre, et ces militaires, ces gardiens de la révolution d'aujourd'hui, qui n'ont pas libéré la patrie, mais ont été au Liban... Bon, contre Israël, certes, l'Israël combat les Palestiniens, mais enfin, bon, c'est un peu loin tout ça. Mais une guerre aussi pour soutenir Bachar el-Assad, qui n'est pas un démocrate. Bon. Donc, ce ne sont pas des soldats très dignes que je veux soutenir. Le consensus de la guerre est effrité aujourd'hui, est effrité.
Alors, Bernard Ourcade, vous êtes actuellement sur Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste. Nous venons de parler de la guerre, on ne peut pas faire autrement dans notre émission. Mais il y a quelque chose aussi qui est très important actuellement en Iran et qui pose problème, c'est le nucléaire.
Oui.
Alors, ce fameux nucléaire, donc, on peut dire quand même que la France a été à l'origine du nucléaire iranien. J'ai lu un livre très intéressant, alors là j'ai le titre, de François Nicoulot, que vous m'avez conseillé, « Des atomes, des souris et des hommes ». Alors, bon, on va parler un petit peu de ce nucléaire iranien. qui a démarré dès 1974, je crois, mais même François Nicoulot raconte le passage du général de Gaulle en 1944, et déjà on parlait de ce fameux, cette fameuse installation du nucléaire. À l'époque, le général de Gaulle pensait surtout à la bombe. Bon, et donc... ce nucléaire en Iran, alors, qui pose tellement de problèmes aujourd'hui, Bernard Rocade.
Oui, le livre de François Nicoulot, je vais permettre d'en dire deux mots. François Nicoulot était ambassadeur à Téhéran, a appris le persan. C'est un ambassadeur, c'est le seul ambassadeur qui, ayant quitté ses fonctions à Téhéran, a continué à s'intéresser à l'Iran, et pendant des années, avant son décès malheureux et prématuré, il y a 2 ans maintenant, était... un excellent analyste de la situation iranienne, qui connaissait de l'intérieur comme diplomate, et comme responsable du nucléaire, il a longtemps été, au Quai d'Orsay, un des responsables du désarmement et des questions de prolifération nucléaire. Et donc Nicoulot, qui nous étions, je crois, amis, est donc décédé il y a 2 ans, et avait commencé à rédiger un livre qui était un peu l'œuvre de sa vie sur l'histoire du nucléaire franco-iranien, comment la France et l'Iran ont été embarqués dans cette histoire-là. Et il fait ce bouquin, ce livre d'histoire, avec les archives diplomatiques, avec les archives du Centre d'énergie atomique, avec les témoins de l'époque, d'un vrai travail d'historien. Malheureusement, et en tant que témoin, puisqu'il a été acteur, c'est lui qui a été avec De Villepin, le premier ministre à l'époque, le premier ministre des Affaires étrangères de l'époque, celui qui a obtenu que l'Iran signe en 2003 un premier accord d'arrêt du nucléaire militaire en 2003. Et ce n'est que cet accord qui a été a évolué et qu'en 2015 aboutit à un accord international. Donc Nicoulot était vraiment l'acteur de cela, ça lui tenait vraiment au cœur. Et il n'avait pas terminé son livre, mais heureusement, il a donné son manuscrit à quelques amis, dont moi-même, pour le terminer. Et donc j'ai eu cet honneur de recevoir son manuscrit inachevé et de compléter, grâce au bloc qu'il avait rédigé, les derniers chapitres en faisant du copier-coller pour donner la parole de Nicoulot, qui n'a, de sa plume, mais avec un montage que j'ai pu faire. Et c'est ce livre, donc, « Des souris et des hommes, l'histoire du nucléaire, des relations nucléaires France-Iran, des origines à l'accord sur le nucléaire », qui est publié donc aux éditions Hémisphère il y a quelques mois maintenant.
Alors, je dois dire que je l'ai lu... avec beaucoup d'intérêt, parce que on suit cette histoire avec ses services secrets, ses allées-venues entre les diplomates, ce qui marche, ce qui ne marche pas, les rivalités entre nations. Enfin, je ne dirais pas que c'est un roman policier.
Presque,
mais,
oui.
Mais presque. Et en plus, des événements qui sont réellement passés, avec des personnages que nous connaissons encore aujourd'hui, disons des ministres des Affaires étrangères dont on connaît le nom. Là, je vois que c'est aussi... Pierre Jox qui a fait son
la préface.
Et sa préface, voilà. Et puis, alors attendez, j'avais mis des mots là, mais je ne sais plus exactement. Mais enfin bon, on ne va pas... Sur ce livre, je crois que vous avez dit un peu comment il s'est fait. Mais quand vous l'avez terminé, justement, il n'y a pas très longtemps, avec le blog, etc., déjà, vous aviez pressenti ce qui allait se passer, notamment... après l'intervention de Donald Trump, qui avait déchiré cet accord du 14 juillet 2015.
Oui.
Alors Nicoulot, on voit le travail qu'il a fait, énorme, pour arriver à cet accord, c'était très difficile, hein, en définitive. Les Français n'ont pas été les plus actifs, hein, d'après ce qu'il raconte.
Oui.
Bon, mais c'était surtout Barack Obama qui a voulu se rapprocher de l'Iran. Bon, et alors... comment vous avez pu terminer et qu'est-ce que vous vouliez dire en utilisant le blog ?
Ce qui est important, c'est pour Nicoulot, c'était un amoureux de la paix. Et il cherchait en tant que diplomate une solution diplomatique et pacifique. Faire une guerre, c'est facile. On provoque l'adversaire, il réagit et ça fait des morts. Et après, on se retrouve avec des ruines et il faut revenir à la situation du début de la guerre pour faire la paix. Lui disait, un métier de diplomate en Iran, c'est boire des hectolitres de thé, du thé, pour discuter. Pour essayer de trouver la solution, pour trouver le langage commun, pour trouver sur quel point on peut s'entendre. On dit, là, on est d'accord. C'est un tout petit accord. On est d'accord sur ces 2 petits points. D'accord. Il y a encore 500 points à régler. D'accord. Mais on est d'accord sur ces 2-là. Avançons pas à pas. Construisons la paix. Et donc, il s'est attaché à montrer comment sur le nucléaire, il y avait cette volonté de la part de certains d'avoir la paix par le rapport de force, les dissuasions, l'armement des deux côtés, mais c'est une solution qui n'est pas une bonne solution, parce qu'un beau jour, ça peut exploser. Et lui était partisan dans du désarmement et de trouver des solutions pour que, effectivement, la guerre n'ait pas lieu. Et donc, c'était un plaidoyer pour la diplomatie. Et lorsque l'accord sur le nucléaire a été signé en 2015, je me souviens de son soulagement, ça y est, le travail de sa vie presque était abouti. Il était retraité à l'époque, il n'était plus diplomate, mais il avait eu l'honneur d'être l'ambassadeur de France à Téhéran qui a accueilli Villepin, Stroh et Fischer, les trois ministres des Affaires étrangères britanniques, français et allemands, se rendant à Téhéran avec Rouhani qui deviendra président de la République ensuite, qui était le responsable du Conseil national de sécurité iranien, pour imposer au guide de la République islamique un moratoire sur le nucléaire. On arrête tout. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique venait en Iran pour contrôler le nucléaire iranien. Depuis lors, le nucléaire iranien est contrôlé milligramme par milligramme. Bon, c'était pour lui une victoire. Il dit, ça y est, le drame du nucléaire est mis de côté et la société iranienne pourra s'exprimer. Parce que la question est que le nucléaire était à la fois nucléaire civil, il en faut, bon, mais c'est aussi un nucléaire militaire, il faut bien le dire. Et quand le Shah a proposé à De Gaulle, après l'indépendance d'Algérie, que les essais nucléaires français soient faits en Iran et non pas en Algérie, et après, c'est une anecdote assez intéressante, et ensuite, en 1974, c'est le CEA français qui a fait le nucléaire iranien, concrètement. Les Allemands ont gagné la bagarre économique, parce que les rivalités franco-françaises stupides ont bloqué tout. La France était impliquée dans le nucléaire iranien par Eurodif, puisque les Iraniens ont payé la France pour développer des structures des industriels d'uranium.
À Tricastin.
Ensuite, l'Iran a voulu récupérer l'argent. Les otages qu'on a eus au Liban, on s'est dit, c'est la guerre du Liban, c'est des islamistes. Oui, les islamistes. C'est surtout une affaire de gros sous. L'Iran exigeait le retour des milliards de rodif avec les intérêts qu'il y avait et que le nucléaire reprenne.
Et énormément d'attentats.
D'attentats en France. Et dans le cœur de tout cela, les morts de la rue de Rennes, etc., c'était la République islamique opposée à la France sur le plan de la guerre Irak-Iran. Incontestablement. Mais le cœur du drame, c'était le nucléaire iranien. Et le fait que la France ne livrait plus l'uranium enrichi à l'Iran, parce qu'il était en guerre, et l'Iran voulait récupérer l'argent. Le nucléaire était au centre de tout cela.
Ils avaient prêté de l'argent, justement,
un milliard de dollars qui avait été prêté. Et donc, on se rend compte avec le livre de Niccolo, et c'est une affaire vraiment de James Bond et de policiers presque, où on voit tous les drames des otages qui sont des questions de politique générale, de grands droits de l'homme. Non, c'était le nucléaire qui était derrière. Et ce nucléaire pourrit la situation iranienne jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'accord 2013 levait enfin la pourriture, ça y est, c'était fini, on nettoyait les écuries d'Augias. Trump remet des tonnes de purin sur la situation en déchirant l'accord et en faisant que les États-Unis, la plus grande, première puissance démocratique au monde dans l'histoire, déchirent un accord international signé par les plus grandes puissances du monde. Le Conseil de sécurité, c'est impensable une chose pareille. Les États-Unis d'Amérique ont fait cela. Et donc aujourd'hui, les Iraniens disent, où va-t-on ? Si les États-Unis ne respectent plus rien.
Alors qu'ils respectaient vraiment toutes les inspections.
C'était inspecté totalement, les Iraniens étaient parfaitement dans les clous, ils voulaient être plus royalistes que le roi, plus anti-nucléaires que les anti-nucléaires. Donc les Iraniens respectaient parfaitement tout, pour une période donnée. Alors en Israël, ils disaient, les Iraniens sont des menteurs. Stupide de dire ce genre de choses. Les Iraniens contrôlaient tout. Mais ce qui était en danger à l'époque, de mon point de vue, c'était pas le risque d'une bombe atomique iranienne qui, à l'époque, était contrôlée et contrôlable. On pouvait continuer. C'est le soft power iranien, c'est la société iranienne. Parce que on savait très bien que les 85 millions d'Iraniens, instruits comme ils ont été instruits, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec le nationalisme qu'ils ont, avec la poésie qu'ils ont, la créativité artistique qu'ils ont dans le cinéma, etc., devenaient la plus grande puissance économique, politique et culturelle du Moyen-Orient, pas militaire. Alors regardez le Hezbollah, ce qu'ils font au Liban, ce qu'ils font en Syrie, ce qu'ils font au Yémen. Oui, mais ça, ce sont des conséquences de la guerre Irak-Iran, d'une vieille politique. Fondamentalement, en Iran, et l'événement que l'on vit aujourd'hui le montre, c'est les dynamiques des sociétés iraniennes dans toutes les exceptions. Et ça, si je suis le roi d'Arabie, le président de la République irakienne, d'Égypte, de Jordanie ou d'ailleurs, j'ai peur que dans l'avenir, la grande puissance qui compte sur le plan économique, culturel, politique, civilisationnel, des femmes, du statut des femmes, etc., c'est l'Iran, qui a expérimenté en même temps 40 années de République islamique, l'islam politique, l'Iran l'a remis au goût du jour. Elle a expérimenté. Ils en sont revenus, l'islam politique. Pour reprendre l'expression d'Olivier Roy, c'est l'échec de l'islam politique. En Arabie Saoudite ou en Égypte, on a fait la révolution. L'islam, c'est la solution. Les Iraniens disent, mon cher ami égyptien, je peux te dire que je pensais il y a 40 ans que l'islam, c'était la solution. Je puis te dire, après 40 ans des républiques islamiques, ce n'est pas la solution. C'est un élément de la société qu'il faut respecter, dont il faut tenir compte. Ce n'est pas la solution. Alors, fais ta révolution. Je te conseille, mon ami égyptien, ou n'importe quel autre pays, mais sois un peu prudent. On avait donc l'émergence d'une société iranienne puissante. Et pour les Israéliens, par exemple, qu'est-ce qui est important ? Un Iran qui dit « Vive la Palestine, vive libérant Jérusalem », ce sont des mots, largement. Ou si l'Iran est un pays solide, qui, aux Nations Unies, défendait véritablement les droits du peuple palestinien, pacifiquement, par sa force de conviction, ce serait autrement plus dangereux, entre guillemets, pour Israël que les vociférations de quelques ayatollahs à Téhéran. Et donc, à mon avis, cette dynamique-là est cassée par Trump. Et dans cette déréliction actuelle, on a, Dieu merci, cette émergence de la révolution des femmes et des jeunes qui disent « Non, je n'accepte pas la situation, il y a moyen de faire quelque chose. »
Alors Bernard Ourcade, vous êtes spécialiste de l'Iran, vous n'êtes pas spécialiste des États-Unis, je suppose.
Je connais un peu quand même.
Mais quand Donald Trump a fait ça, est-ce que c'était contre ce qu'avait fait Barack Obama ou alors est-ce qu'il avait d'autres projets dans la région? On ne peut pas trop savoir.
Non, il y a plusieurs choses. Trump, c'est un populiste. Un populiste. Il y avait des populistes en Iran, ou dans beaucoup de pays, hélas, on voit même ce même danger en France. De gens qui soutiennent ceux qui sont dans le sens du poil, dans le sens du courant, dans le sens de... qui ne posent pas de questions. Donc pour lui, Obama, qui est un nègre en plus, un nègre à Maison Blanche, c'est inconvenant. Bon, il ne faut pas dire ça, mais enfin, c'est comme ça qu'il parlait et qu'il pensait. Donc, un Trump ne pouvait pas accepter que Obama, qui a fait le healthcare, qui a fait la sécurité sociale et tout ça, non, ce n'est pas possible. Bon, il était contre Obama par définition. C'est sa réaction primaire. Mais Trump, il s'en fichait de l'Iran. Par contre, en Israël, on ne s'en fichait pas. En Arabie Saoudite, on ne s'en moquait pas. Et donc, il voyait les Saoudiens, c'est la montée de la puissance du soft power iranien en Israël. C'est le fait que l'accord n'était pas assez dur de leur point de vue. Il fallait donc renégocier cet accord ou le détruire. Donc, à mon avis, c'est plus eux qui ont soucié à l'oreille de Trump. Cet accord, tu le déchires, hein, que Trump qui avait la volonté d'une nucléaire iranienne. Il ne sait même pas où était l'Iran, Trump. Hein. Bon, il faut être sérieux. Hein. Mais il y avait aussi des gens avec lui qui voulaient la guerre. Votre émission s'appelle Civis Pacem, si tu veux la paix. Certains veulent la guerre. J'étais en face, il m'est arrivé il y a une vingtaine d'années, d'être en face de John Bolton. John Bolton était le conseiller diplomatique et militaire de Trump. Il a été à l'époque du Bush 1 et 2. Et ce monsieur, dans cette une réunion, l'avantage des universitaires, on va partout, même à Radio Libertaire. Oui, hein. Mais on voit aussi des gens beaucoup moins sympathiques. Et les gens autour de Bolton, qui étaient en face de moi, disaient « Monsieur, les sanctions en Iran, il faut qu'elles mordent, comme ils disaient. Il faut des sanctions qui mordent. Les sanctions actuelles ne mordent pas, c'est l'Iran était sous sanctions embargo complet. Il faut un embargo sur les produits alimentaires et les produits pharmaceutiques. Le jour où les Iraniens crèveront de faim par milliers et par millions, où ils mourront de maladies par millions, le peuple iranien, qui est très puissant et a des racines profondes, va se révolter contre ces molles-là. » Ces gens-là sont prêts à ce que l'Iran tombe dans le chaos, dans la mort de, pas de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes, et que ce pays plonge dans le chaos, comme c'est le cas en Irak, comme c'est le cas en Afghanistan aujourd'hui, comme c'est le cas en Syrie aujourd'hui. C'est absolument épouvantable. L'Iran est encore un pays qui tient, grosso modo, avec mille problèmes, mais qui tient encore. Il s'agit de faire effondrer ce pays-là, qu'il crève sur place, avec guerre intérieure, avec guerre de n'importe quoi. Et donc, et après, du problème du militaire, on peut les contrôler de façon, quelques bombardements résoudront le problème. Et donc, c'est un peu épouvantable de voir ce pays extraordinaire qu'est l'Iran avoir des ennemis comme ça qui, finalement, au lieu de valoriser ce qui est de positif, espèrent une anarchie qui créera un chaos. La guerre Irak-Iran a ravagé le pays, a mis en place un régime islamique despotique. Ils cherchent maintenant un nouveau système qui mettra quoi en place? D'un chaos, qu'est-ce qui peut sortir? Un populisme? Un général quelconque, un Bonaparte, qui va dire c'est moi le chef, et va imposer forcément l'islam paternaliste, parce que l'islam est une religion et un système de pensée fort en Iran, et donc on va refaire un Roménie, mais en Staline, en plus. Hein. Roménie c'est excellent, Staline c'est très bien, les deux à la fois, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Pol Pot était un excellent chef d'État, mais enfin, c'est quand même un peu beaucoup. Et les Iraniens n'ont pas envie d'avoir un Pol Pot au gouvernement.
Alors, Bernard Ourcade, Donald Trump a été heureusement remplacé par Biden en 2021. Et Biden avait dit qu'il allait reprendre cet accord, qu'il allait y retravailler. Alors, est-ce que c'est le cas ?
Oui, c'est le cas. Parce que immédiatement, Donald Trump a mis en a chargé comme ambassadeur chargé de l'Iran Robert Malley. Robert Malley a été un des principaux, il était ancien directeur de Crisis Group. Crisis Group est un think tank très important qui analyse les questions politiques du monde entier et dont les analyses en général sont assez structurées et pour la paix, pour essayer de trouver des solutions qui résolvent pour résoudre les crises. Et Robert Malley, qui est parfaitement francophone, il a passé le bac en France, il a été élevé en France. Robert Malley, qui est un des négociateurs, comme jeune diplomate, des accords entre Palestine et Israël, connaît très bien les questions palestiniennes, connaît très bien le Moyen-Orient, a été donc en charge par Biden de trouver des solutions. Et donc, il a commencé à discuter. Mais les Iraniens, vexés et humiliés par le fait qu'on a déchiré un accord sur lequel ils comptaient, disent « je ne veux pas discuter avec ces voyous d'Américains ». Donc les Américains doivent s'excuser, et c'est à eux de revenir dans l'accord, et ce n'est pas à moi, etc. Et donc, susceptibilité américaine et iranienne de côté, qui est plus bête l'un que l'autre, et un concours de la bêtise des deux côtés, a fait que les Iraniens sont retirés de l'accord du point de vue nucléaire, progressivement, dont le nucléaire iranien est contrôlé toujours par l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, mais et ils enrichissent l'uranium régulièrement, qui actuellement, dans des usines souterraines, atteint 60% bientôt d'enrichissement à plusieurs centaines de kilos. L'Iran sera prêt dans quelques semaines d'avoir une quantité d'uranium nécessaire à faire une ou deux bombes atomiques dans un délai extrêmement court. Donc, d'un côté, le nucléaire a repris. Les Américains sont bloqués parce que ils ne veulent pas soutenir un régime qui n'est pas très démocratique. Et donc, des deux côtés, c'est bloqué. Mais le danger du nucléaire est là. Et cet accord est négocié. Alors, cela dit, l'Union européenne a joué un très grand rôle là-dedans. L'Union européenne a été, dès le départ, le noyau, le secrétaire général qui faisait les allers-retours dans l'accord 2015. C'était Mogherini, notamment, la responsable de l'affaire étrangère de l'Union européenne, qui a fait les allers-retours. Aujourd'hui, c'est Job Borrell, qui est en charge de la ministre des Affaires étrangères de l'Europe, si vous voulez, qui va de Bruxelles à Paris, à Berlin, aux États-Unis, à Téhéran, sans arrêt, pour essayer de faire quelque chose. On sait très bien, c'est un secret de Polichinelle, que les Américains prennent beaucoup de thé à Oman ou à Qatar, avec des Iraniens qui, par hasard, prennent de thé aussi autour de la même table. Bon, parce que l'accord sur le nucléaire, il est mort, mais c'est la seule chose qui soit sur la table. C'est la seule chose autour de laquelle on peut discuter pour dire qu'est-ce qu'on fait ? On lève les sanctions, on permet à la classe moyenne iranienne de retrouver la dynamique, et on contrôle le nucléaire, ou bien on ne fait rien, et le nucléaire peut dégénérer dans une bombe, et la crise économique dégénérer dans un populisme dont sortira un despote iranien militaro-islamique. Un chaos. Donc, l'accord sur le nucléaire 2015, personne n'a signé l'arrêt de mort, l'acte de décès, parce qu'on sait qu'il est là, et que c'est finalement la seule chose importante pour les Iraniens et pour la diplomatie internationale. Mais comment le faire revivre ? C'est extrêmement difficile.
Alors, vous écrivez, Bernard Ourcade, la France doit ouvrir les portes à l'Iran. Et, nous, ce qu'on a constaté, c'est une information qui a été donnée dans le Figaro. Le 2 février 2023, M. Macron reçoit M. Netanyahou. Ils veulent travailler ensemble face à l'Iran. Alors là, c'est entre guillemets, travailler ensemble face à l'Iran. Et au cours d'un dîner, comme Macron a l'habitude de les offrir, il dit qu'il faut arrêter la fuite en avant de l'Iran dans son programme nucléaire. Et il avertit l'Iran qu'une poursuite sur cette trajectoire ne resterait pas sans conséquences, selon un communiqué de la présidence française. Alors, c'est toujours un peu le discours de la France, ça, de menacer plutôt que d'essayer de discuter.
Alors, il y a eu deux choses. On sait que sur le nucléaire iranien, le bouquin de Nicolau le montre, comment un certain nombre de diplomates français très haut gradés sont viscéralement anti-iraniens, anti-islamiques. Ils considèrent l'Iran vraiment comme le diable, comme une menace existentielle pour tout, pour l'Israël, mais pour le monde entier. Et donc, disant que de ce pays ne peut rien sortir. Et sont ainsi très pro-saoudiens, essentiellement, et pensant qu'un régime, finalement, autoritaire, la meilleure des choses, et craignant justement le fait qu'en Iran, ça bouge beaucoup en Iran, et c'est pas contrôlable. Bon. Et donc, il y a un peu ces deux tendances. Mais le nucléaire, les Iraniens, les Français le savent très bien, est un danger. Parce qu'il y a en Iran des gens qui veulent effectivement avoir la bombe atomique. Le Shah l'a voulu. Hein. La République islamique n'a fait que continuer la politique du Shah, sans rien changer au calendrier. et sans accélérer par rapport à ce que vous aurez voulu le chat. On est aujourd'hui au fait que l'Iran est sur le seuil nucléaire, c'est-à-dire l'Iran a la technologie, même si l'Iran n'a plus d'uranium enrichi, il a la technologie, comment faire une bombe atomique ? Ils ont maintenant le matériel pour le faire, et leurs ingénieurs peuvent, il leur faut encore un an ou deux pour faire une vraie bombe et la mettre sur un missile. Mais c'est un travail d'un an ou deux. Dès quand on a l'uranium enrichi, ça suffit. Il y a un vrai danger, un vrai risque. Et on comprend le président Macron qui dit, il ne faut pas que ça continue à déraper. Oui, monsieur le président, vous avez entièrement raison. Et Israël a raison de dire, il ne faut pas que le nucléaire iranien dérape. Il y a une solution pour ça. C'est de revitaliser l'accord de 2015. Que les Iraniens veulent absolument retrouver, sans aucun problème. Mais les sanctions ont été imposées depuis 2018. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Donc l'économie iranienne est ruinée. Et les Iraniens disent, il faut lever les sanctions et m'indemniser pour tout le mal qui a été fait. Ils ont dit, pas question de donner à ce régime de l'argent aux mollahs. Aux mollahs, oui. Aux corrompus, oui. Mais aux populations iraniennes aussi. On sait qu'aujourd'hui, tout l'argent de la corruption va dans les poches du régime. Il n'y a pas d'argent. Il y a peu d'argent, très peu d'argent pour les hôpitaux, pour l'éducation, les infrastructures. Donc, s'il y avait au contraire de l'argent, les voleurs voleraient, ça c'est hélas le sort de beaucoup de pays de ce genre-là, mais la population en tirerait bénéfice, et surtout la classe moyenne, qui aujourd'hui est stérilisée, écrasée par la crise économique qui ne fait qu'ils sont au chômage, ils n'ont plus rien, ils n'ont aucun espoir. Si je retrouve mon poste d'ingénieur, ouf, je peux enfin travailler, payer ma maison, ma voiture, vivre normalement, prendre des vacances, payer les études de mes enfants, et je pourrais penser au problème de liberté, du tchador, etc., et soutenir le combat. Mais pour l'instant, je vivote, j'ai autre chose à penser qu'à la liberté et à la démocratie. Et donc, effectivement, le nucléaire, c'est la clé de tout le système. Et aujourd'hui, quand Macron dit « il faut arrêter cela », il a entièrement raison. Mais, monsieur le Président, il faudrait aussi voir avec des Iraniens qu'est-ce qu'on peut faire sur l'accord sur le nucléaire. Et on sait que Netanyahou, lui, il a une perspective différente. Il dit « j'envoie », il a commencé à le faire il y a 8 jours, en envoyant des drones sur des installations militaires iraniennes pour voir comment ça marchait. Hein. Et maintenant, prochaine étape, c'est d'envoyer des drones plus solides sur des installations nucléaires iraniennes pour, non pas arrêter le programme nucléaire iranien, pour le détruire, l'embêter. Mais que pensez-vous qui se passe dans un pays aussi nationaliste que l'Iran, attaqué par Israël, grande puissance nucléaire, qui a la bombe, qui fait la guerre à un pays qui ne lui a rien demandé, à froid, sur un pays qui n'a pas de bombe atomique, et qui, en principe, affiche un programme uniquement civil. C'est faux, on le sait, mais officiellement, c'est ça. Immédiatement, le gouvernement iranien va profiter de cela, comme il a bénéficié de l'attaque de Saddam Hussein en 1980, pour unifier le pays, dire « Regardez, arrêtons nos divisions intérieures, pas question de manifestations dans les rues, mesdemoiselles, messieurs, pas de manifestations, répression beaucoup plus dure contre l'émergente population iranienne. » Sans compter que si Israël attaque sur le nucléaire, c'est une motivation déterminante pour que ceux qui sont partisans du nucléaire, de la bombe atomique en Iran, disent « Voyez, la bombe, il la faut. » Et donc, une attaque israélienne contre l'Iran écraserait la dynamique de rébellion des Iraniens et de révolution des Iraniens. C'était suicidaire pour eux. Et deuxièmement, ça rendrait à ce moment-là légitime, entre guillemets, la bombe iranienne. C'est catastrophique. Et on va effectivement vers ce danger-là. Alors là, Netanyahou, lui, il est revenu au pouvoir pour ça. Les affaires intérieures des juifs intégristes, etc., ce n'est pas son problème, lui, il n'est pas du tout religieux. Hein. Il est revenu au pouvoir pour ses questions personnelles de condamner à la corruption, etc., et pour faire la guerre à l'Iran, bon, et détruire le nucléaire iranien. C'est son obsession fondamentale. Il est aidé en cela, en France, par des diplomates de très haut rang, très haut placés dans la diplomatie française, qui disent « Netanyahou a raison ». Les Iraniens sont des menteurs, des voleurs, des bandits. Les Iraniens sont gentils peut-être, mais bon, la population iranienne, ce n'est pas ma priorité. Le combat des Iraniens, d'accord, ils vont se libérer un jour. Ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Mon problème, c'est la bombe. La solution, c'est bombarder. Il n'y a pas d'autre solution. Puisqu'on le voit, et les Iraniens atteignent un niveau extrêmement élevé d'enrichissement et de capacité nucléaire. Il n'y a qu'à voir comment récemment les Iraniens ont eu du succès en plaçant des satellites sur orbite. Et les Iraniens ont des capacités de placer des satellites. Il y a combien de pays au monde capables de mettre des satellites sur orbite ? L'Iran, tout seul, a réussi à le faire. Donc ils ont les savants, ils ont la technologie pour faire cela. Donc la solution, je détruis. Si vous détruisez, vous avez une bombe iranienne dans 4 ou 5 ans, ça c'est certain. Est-ce la bonne solution ? Monsieur le Président Macron, en même temps, vous pouvez peut-être essayer de voir si on ne peut pas vraiment relancer des discussions. Et si les sanctions étaient levées, c'est pas l'argent au mollah, ça c'est un slogan trop facile. Le budget actuel de l'Iran, de l'année prochaine qui commence au 21 mars, double le budget de l'armée, des gardiens de la révolution, de la répression, de la police, des informations. Et le budget d'éducation, de la santé, des investissements n'augmente pas. Autrement dit, il baisse de 50% puisque l'inflation est de 50%. Crève les Iraniens, mais vive la répression. Donc si l'argent revenait en Iran, l'armée garderait son budget, il serait même augmenté. Mais au moins, il y aurait un peu d'argent pour le reste de la population. C'est un enjeu stratégique important. La clé de l'avenir de la révolution iranienne réside actuellement dans l'arrêt du programme nucléaire iranien. Il faut l'arrêter par une négociation, comme Nicolau l'avait fait en 2003, et Villepin et les autres jusqu'en 2015. Et comme même Roland Fabius a fini par le signer en 2015.
Oui, parce que Roland Fabius, il a eu une attitude un peu curieuse. Hein, à un moment donné, il ne s'était pas fait que des amis en Iran, avec ses remarques lorsqu'il y avait des réunions. Bon, mais alors, justement, Bernard Hourcade de vous confirmer quelque chose qui est que finalement, ce pays, personne ne le connaît vraiment. Il faut vraiment que ce soit des gens qui s'y intéressent de près pour arriver à comprendre un peu cette société et justement cette dynamique dont vous parlez. Et puis ce qu'il faudrait faire pour que ces gens vivent normalement et qu'on ne soit pas... Alors, il y a énormément d'idées reçues sur l'Iran actuellement. Et est-ce que c'est justement le but de votre travail aussi d'aller contre ces idées reçues ?
Je suis désespéré, parce que pendant 50 ans de ma vie professionnelle, mon job était de faire connaître l'Iran aux Français. Bon, c'était un métier comme un autre, pas plus bête que d'autres, même intéressant et passionnant, en fait. Et c'est un jour, quelqu'un des services de renseignement iraniens, on prend beaucoup de thé en Iran avec des gens, on voit très bien de qui ils sont, il me disait, Monsieur Hourcade, vous êtes... vous n'avez rien fait, vous êtes nul, Monsieur Hourcade. Pourquoi ? Monsieur Sarkozy... il est contre nous. Or, si vous aviez vraiment été influent en France, votre président Sarkozy, et Hollande, c'était pas mieux, aurait été favorable à l'Iran, il aurait compris l'Iran, notre dynamique généreuse. Ils l'ont pas été. Donc, vous n'avez rien compris à l'Iran. Et... Alors, je me remémore que face à cette phrase-là, je n'ai pas réussi, effectivement. Et aujourd'hui, merci à Radio Libertaire et à vous de m'accueillir ici pour en parler. Et aux éditeurs qui publient nos quelques articles, on essaye de dire, de faire passer des choses. L'Iran, en fait, est un pays pas plus bizarre que notre, c'est un pays ordinaire. Les gens sont comme vous et moi. Ils vivent comme tout le monde, à mêmes aspirations que n'importe lesquelles. Et en Birmanie, au Soudan, en Éthiopie ou au Guatemala, les gens ont fondamentalement la même envie de vivre. Bon, chacun a sa culture, sa langue, sa façon de parler ou de danser, mais fondamentalement, c'est la même chose. Alors, l'Iran a des particularités, c'est évident, mais elles ne sont pas plus diabolisées que d'autres. Le problème, c'est que un certain nombre de gens sont restés un peu à la guerre froide. Et avec le regain de la guerre en Ukraine, ils disent la guerre froide est reparti avec une autre déclinaison, notre grammaire. Et donc, fondamentalement, l'Iran est un pays qui sera allié des bolcheviks. Non, comment on dit, de la Russie, c'est ça maintenant, on dit Russie, on ne dit plus URSS. Mais c'est pareil, c'est pareil. Et l'Iran est... Bref, l'Iran, Achéménide, au 5e siècle, avant Jésus-Christ, était jusqu'en Égypte et en Palestine. Donc l'Iran a une vision impérialiste. Mon maître Xavier de Planolle, géographe, a montré que l'Iran était nationaliste, hyper nationaliste, atrocement nationaliste, pire qu'un Français ou qu'un Chinois. Mais ils ne sont pas impérialistes. L'Iran sont sur leur plateau iranien, à 1000 mètres d'altitude. Ils ont une langue, une civilisation, une société qu'ils défendent bec et ongle. Et ils contrôlent les pays avoisins, qui ne veulent pas, qui veulent amis, du Caucase, d'Azerbaïdjan, d'Afghanistan, du Golfe Persique ou de Mésopotamie. Ils veulent avoir des pays amis autour et ils font le nécessaire militairement quelquefois pour les contrôler. Mais à l'extérieur, ils n'ont jamais pu s'imposer. La culture iranienne, la politique iranienne ne s'est jamais installée en colonisateur à l'extérieur parce qu'ils sont iraniens. Aujourd'hui, en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Iraniens sont allés aider Bachar el-Assad. Ils parlent persan, les Iraniens. L'armée iranienne est incapable d'agir sur le terrain. Ils en ont fait venir les Arabes du Hezbollah, libanais, pour agir à leur place comme mercenaires, parce que les Iraniens ne sont pas fichus de coloniser un pays arabe. Ce n'est pas leur truc. Et donc, mais on a l'image d'un pays qui va faire alliance avec l'URSS, dans un pays qui ne va pas tomber dans l'escarcelle de la Russie ou de l'URSS, avec un schéma qui date des années 1950, 60, 70. Et on ne se rend pas compte qu'il y a une population avec un nouveau système de pensée. Reprenons l'idée de Bertrand Badi et d'autres sur le fait que le monde a changé. Le monde a changé. Et donc, prenant en compte la réalité, et sur l'Iran, effectivement, le gouvernement met en prison ceux qui cherchent sur l'Iran, qui essaient de le comprendre. Et moi-même, je suis interdit de séjour en Iran, évidemment, parce que je regarde un peu trop près ce qui s'y passe, quoi.
Alors Bernard Hourcade, et on pourrait terminer peut-être, on a commencé par cette révolution, cet esprit révolutionnaire, et alors donc les Iraniens ont toujours eu cet esprit révolutionnaire, et ils le gardent encore aujourd'hui.
Oui.
Alors pourtant ils devraient être associés un peu avec les Français du coup.
Oui, la révolution française est très bien appréciée en Iran, est très connue en Iran, dans les écoles.
De Gaulle était apprécié d'ailleurs.
De Gaulle est apprécié, De Gaulle. Et De Gaulle en persan...
Comme résistant, De Gaulle résistant.
De Gaulle, ça veut dire deux fleurs. Gaulle, c'est la fleur. De Gaulle, c'est les deux fleurs. Ah bon. C'est pour ça que De Gaulle avait une belle... Parce que le mot parlait aux Iraniens. De Gaulle, c'est le type aux deux fleurs. Donc, c'est un joli nom. Et donc, la Révolution française pour la liberté a été un des motifs de la Révolution iranienne au début. Ne pas oublier que la Révolution a été faite pour indépendance contre l'impérialisme américain, liberté, république, on est d'accord ? Et islamique, c'est la religion populaire. Donc, indépendance, liberté, république, tout le monde signe, et en France, ces idéaux ont été ceux des premiers révolutionnaires qui ont fait une révolution populaire, qui a ensuite été récupérée par le dernier démo, l'islam, qui a dominé les trois autres, mais les idéaux du départ sont toujours là, et toujours vivants. La preuve, les mouvements que l'on voit actuels ne font que reprendre ces idées d'indépendance, de liberté et de république.
Alors nous espérons qu'ils vont aboutir. Enfin, que du moins, ça changera aussi la perception des Occidentaux, si on peut dire. Parce que, bon, il faut dire qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup aux pays étrangers. On s'en rend compte. Ce n'est pas l'Iran qui est complètement ignoré. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont ignorés, malheureusement. Et qu'on a besoin de chercheurs, justement, pour éclairer. Mais je crois quand même que vos travaux sont importants. Parce que non seulement je conseille donc la lecture de Géopolitique de l'Iran, bon, même si là c'était plus optimiste que votre discours d'aujourd'hui.
Oui, ça posait des défis, disons, ça montrait des défis qui n'ont pas tous été relevés.
C'était des défis. Vous tenez aussi donc sur le site. Le 21, là.
Orient 21.
Orient 21.
Je contribue régulièrement sur le Moyen-Orient.
Je crois que vous avez aussi des articles dans Le Monde Diplo.
Oui, j'essaie de publier, là où on veut bien accueillir. Et nous avons un site internet qui s'appelle Carte Orient. Vous avez des cartes de l'Iran où on essaie de montrer la réalité des Iraniens telle qu'elle est véritablement, en essayant d'être des passeurs d'idées et des gens qui transmettons la dynamique des Iraniens à la belle population française.
Alors, Bernard Hourcade, il me reste à vous remercier. Je crois que c'était la première fois que vous veniez à Radio Libertaire.
Je reviens avec plaisir.
Et ben, on vous accueillera avec plaisir, justement, parce que cette société iranienne évolue tous les jours. Je pense qu'il faut se tenir au courant et qu'il est très important de le faire connaître. Donc, cette émission a été un petit peu changée, puisque nous devions avoir quelques intermèdes musicaux, notamment avec Babak Rajabi, que j'ai écouté aussi avec beaucoup d'intérêt l'autre jour à la Bourse du Travail.
Oui, absolument, c'est remarquable.
Qui est un artiste étonnant.
Absolument.
Que nous allons essayer d'inviter pour parler justement des artistes en Iran. Et puis, il y a encore tous ces livres à lire. Et donc, cette émission se termine. Je vous remercie, Bernard Hourcade. Et puisque je suis tout seul aujourd'hui dans le studio, je vais me permettre d'aller arrêter la technique. Mais la prochaine fois, on souhaite quand même meilleure santé à Pedro Fidalgo pour qu'il soit avec nous jeudi prochain.
Merci de votre invitation. C'était agréable de pouvoir parler d'Iran de façon libre. Et de pouvoir ainsi faire connaître ce pays fou et génial et fou au bon sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un doté d'imagination créative.
Une robe en papier, des yeux bleus comme la fumée et la peau couleur de tabac. Je la voyais danser, danser, la gitane sur le paquet des cigarettes de papa, de papa.
spirit.